ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Campus Tour, il est 7h15 et comme chaque vendredi matin, c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 7 novembre et on vous accompagne pendant 50 minutes d'émission pour bien commencer la journée. Au programme ce matin, Angelina reviendra sur l'augmentation de l'hospitalisation à domicile. Inès nous présentera le parcours d'un agriculteur ancien éleveur reconverti dans le maraîchage. Youn nous parlera du nouveau maire de New York, un revers symbolique pour l'administration Trump. Côté culture, Clara Baudard nous parlera du prix Goncourt 2025, qui a d'ailleurs été décerné à un Tourangeau. Et enfin, le traditionnel agenda culturel pour profiter de votre week-end. Mais tout de suite, place au flash info.
Interpellé ce jeudi en marge d'un déplacement à Lyon, Gérald Darmanin a exprimé son soutien aux gendarmes suite aux révélations de Mediapart et Libération. Mercredi, les deux médias ont publié des vidéos mettant gravement en cause les forces de l'ordre lors des événements à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Alors que les affrontements avec les manifestants avaient fait plus de 200 blessés, une enquête administrative a été ouverte pour faire la lumière sur les agissements des gendarmes. Au lendemain de l'attaque à la voiture Bélier, survenue mercredi sur l'île d'Oléron, le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larez, a donné davantage de détails sur le profil du mis en cause. Lors de son interpellation, l'homme de 35 ans a déclaré s'être converti à l'islam seul, à l'aide des réseaux sociaux. Retenant des troubles de la personnalité et parce qu'il n'a pas trouvé de lien avec une organisation djihadiste, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce jeudi au Brésil, à quelques jours de la COP30, qui se tiendra à Belém du 10 au 21 novembre 2025. Il a affirmé que la désinformation climatique faisait peser une menace sur les démocraties, alors que Donald Trump lui-même qualifie le changement climatique de plus grande arnaque jamais menée. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire hier, le centre Hubertine Auclerta a publié une étude révélant que les jeunes filles sont en première ligne. 83% d'entre elles déclarent avoir subi au moins une forme de violence ou de cyberviolence psychologique au cours de l'année. Et enfin, côté culture, le rappeur Orelsan sort aujourd'hui son nouvel album, La Fuite en Avant. 4 ans après la sortie de Civilisation, l'album le plus vendu de 2021, il fait son retour avec 17 titres et 5 invités, parmi lesquels Daft Punk, le feat de mes rêves, se félicite Orelsan.
C'était le Flash Info présenté par Rachel Giraudot. On se retrouve dans 20 minutes pour un nouveau point info. Il est 7h19 et vous écoutez Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. La Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile vient de publier son bilan d'activité 2024. Les hospitalisations chez la personne sont en hausse partout en France. Angelina Richard.
Qui a ses avantages. Garder une qualité des soins, renforcer l'équilibre financier, surtout raccourcir les délais d'hospitalisation. Car être hospitalisé, oui, mais chez soi, c'est mieux. Alors pour en bénéficier, il faut une prescription médicale et correspondre à certains critères, c'est-à-dire avoir un aidant ou encore des soins complexes qui nécessitent des professionnels de santé. Certains départements choisissent des médecins du service public, ce qui permet aux patients de retrouver les leurs. Pour donner un exemple concret d'un cas médical qui peut en bénéficier, un suivi post-opératoire ou post-accouchement par exemple. Ce qui est sûr, c'est que la reconnaissance de cette offre progresse fortement. À l'échelle nationale, l'activité d'hospitalisation à domicile a augmenté de plus de 10,8% en un an.
Merci Angelina. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. Auguste Beauchesne vient tous les jeudis au marché de la place Velpeau près de la gare de Tours. 9 ans plus tôt, sa vie bascule. Lui qui élevait des vaches dans son exploitation familiale à Rilly-sur-Vienne, située entre Saint-Maur et Richelieu, se tourne vers le maraîchage et la vigne grâce à sa femme Amandine, portrait réalisé par Inès Figuigui.
Mon grand-père avait des vaches, mes parents en avaient, et puis ça leur a fait un peu de peine quand j'ai arrêté, parce que je m'étais mis aux normes, moi, il y a 25 ans, quand je me suis installé, aux normes européennes, donc on avait fait des gros investissements. Je connais tellement d'agriculteurs qui se sont mis une corde au cou parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures, qu'à la limite, valait mieux essayer de se reconvertir que de se suicider, quoi. Donc, ma femme, elle venait pas du milieu agricole, elle avait une autre vision de l'agriculture. parce que le milieu agricole est quand même un milieu assez fermé. Et du coup, c'est vrai qu'avec une vue extérieure comme ma femme avait, bah, ça nous a permis de se diversifier plus vite et d'éviter d'avoir des gros problèmes de trésorerie, quoi.
Et en fait, vous êtes tourné vers l'agriculture pour continuer l'exploitation familiale. C'était la volonté de continuer un peu la tradition familiale.
Moi, j'ai toujours été avec mon père sur les tracteurs depuis que je suis tout petit. Et du coup, c'est vrai que bah, je voyais pas d'autre voie que ça, quoi. C'est ma passion.
Oui, c'est de vos souvenirs d'enfants qui ont façonné.
Bah, c'est que dès l'âge, dès que j'étais en capacité de travailler dans les exploitations, et ils ne nous laissaient pas regarder la télé, mes parents. C'était, on allait nettoyer les veaux, on allait leur donner à manger, on allait. Voilà. Donc, mais bien avant d'être adolescent, à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, je travaillais déjà avec mes parents. Puis nous, on n'est jamais partis en vacances. Mes parents, avec les animaux, c'est 365 jours sur 365. Du coup. J'ai été baigné dedans, donc après, quand on est imprégné comme ça, pour moi, c'était une évidence, quoi.
C'était une évidence de continuer l'œuvre de vos parents.
Exactement, puis de mes grands-parents, et puis que la ferme reste bah, dans notre nom. Moi, je m'appelle Beauchesne, et puis bah, ça fait déjà 4 générations, donc après, voilà, quoi. Après, en espérant que ça poursuive derrière moi, quoi.
Et donc, finalement, vous êtes content de vous être reconverti vers les légumes, d'avoir continué à garder ce nom?
Bah, moi, je suis content voilà, qu'on ait pu perpétuer déjà... la continuité de l'exploitation. On a beaucoup moins d'investissement qu'avec les vaches. C'est moins contraignant quand même, parce que bah, les vaches, c'est matin et soir, surtout dans l'élevage laitier. Et on est plus serein, quoi. Et puis, bah, le rapport avec les clients est bon sur les marchés. Donc après, voilà, que ce soit moi ou ma femme, on est content de la transition qu'on a faite.
Vous venez d'écouter le portrait d'Auguste Beauchesne, ancien éleveur reconverti en maraîcher à Rilly-sur-Vienne. Il est 7h23. On va maintenant marquer une petite pause musicale avec le titre Bleed de Malcolm Todd.
Control.
C'était Bleed de Malcolm Todd. Vous êtes bien sur Radio Campus Tours et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Aux Maldives, une loi inédite fait du bruit. Ce petit archipel, très prisé de voyageurs, vient de prendre une décision forte concernant le tabac.
Depuis le 1er novembre 2025, les Maldives ont franchi une étape historique dans la lutte contre le tabac. Une loi interdit désormais aux personnes nées après le 1er janvier 2007 d'acheter, d'utiliser ou de vendre du tabac. Et c'est une première mondiale. Et attention, si vous êtes né après cette date et pensiez partir aux Maldives pour vos vacances avec votre paquet de cigarettes, il faudra vous en passer car la loi s'applique également aux visiteurs de passage. Et les sanctions sont lourdes pour ceux qui se risqueraient à enfreindre la loi avec une amende de 2 800 €. L'usage de la cigarette électronique est lui aussi puni d'une amende de 280 €. Et les personnes qui tenteraient de vendre du tabac ou des produits de vapotage à cette génération sont également exposées à de lourdes peines. Le ministère de la Santé maldivien parle d'une étape historique dans les efforts déployés par le pays pour protéger la santé publique et promouvoir une génération sans tabac. Le pays vise clairement à long terme éradiquer complètement la cigarette. Depuis 2024, les Maldives maintiennent déjà une interdiction totale d'importation, de vente, de distribution, de possession et d'utilisation de cigarettes électroniques et de produits de vapotage considérés comme illicites. Et cet été, le président Mohamed Miouzou a promis une récompense financière pour les habitants de l'archipel qui parviendraient à cesser complètement de consommer du tabac. Des cliniques anti-tabac vont d'ailleurs être mises en place pour accompagner les fumeurs.
Et pourquoi s'attaquer à une génération de jeunes ?
Tout simplement car les jeunes sont parmi les principaux consommateurs de tabac. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé aux Maldives, plus d'un quart de la population âgée de 15 à 69 ans a déjà fait usage du tabac. Et la situation est encore plus préoccupante chez les jeunes. En 2019, la moitié des adolescents de 13 à 15 ans consommaient du tabac. Mais cette mesure générationnelle, elle s'explique aussi par le fait qu'il serait quasiment impossible d'imposer à une population déjà dépendante d'arrêter complètement de fumer, et surtout parce que l'entrée dans le tabagisme se fait le plus souvent durant la jeunesse. L'idée est donc de stopper le problème à sa source, empêcher les jeunes de commencer pour qu'à terme, il n'y ait plus de fumeurs du tout. Ça ne reste cependant pas une politique inédite, elle pourrait même émerger dans d'autres pays. La Nouvelle-Zélande avait déjà adopté une mesure similaire en 2022 en interdisant la vente de tabac aux personnes nées après 2009, mais un changement de gouvernement en 2024 a mis fin à cette loi pour laisser place au financement d'une baisse d'impôts grâce aux taxes sur le tabac. Et au Royaume-Uni, un texte comparable est toujours à l'étude depuis 2023. Pour rappel, selon l'OMS, le tabac tue chaque année 7 millions de personnes, dont 1,5 million de non-fumeurs exposés au tabagisme passif.
Merci Charline, espérons que la mesure se maintienne dans le temps. L'ONU désigne la situation de ce pays comme la pire crise humanitaire du monde. Entre le 26 et le 28 octobre, au Soudan, les forces paramilitaires ont pris possession de la ville d'Al-Fasher dans le sud du pays. Clara Danneret.
Cela faisait 18 mois que les milices paramilitaires du groupe des forces de soutien rapide, ou FSR, assiégeaient la ville d'Al-Fasher dans le Darfour. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 200 000 personnes vivaient encore dans la ville lorsque l'assaut a été donné fin octobre et à peine plus de 36 000 ont pu évacuer entre le 26 et le 29. Le bilan de l'attaque est difficile à établir et diffère selon les sources. Cependant, l'OMS a dénoncé le lendemain de la prise de la ville une tuerie de masse dans une maternité qui servait d'hôpital aux habitants, où plus de 460 personnes ont été abattues. Dans les jours suivant l'attaque, des images satellites ont été publiées et analysées par l'Humanitarian Research Lab de l'Université américaine de Yale. Selon ce laboratoire, je cite, « les indices correspondant à la présence de corps humains au sol continuent de se multiplier. Les images montreraient en effet plusieurs charniers, des mares de sang et de potentielles dépouilles. En plus de cela, dans les jours suivant l'occupation de la ville par l'armée, les images satellites montrent une activité humaine quasi inexistante, les seuls déplacements visibles concernant des convois militaires. Pour les chercheurs, cette absence d'exode suggère qu'il reste peu de civils en vie et capables de s'échapper. De rares témoignages de la population soudanaise ont également été publiés par des ONG rendues sur place, parmi elles l'ONG Alima, dont les membres témoignent de la misère de la population qui a réussi à quitter Al-Fasher et qui manque cruellement d'aide humanitaire, d'eau et de nourriture. Bref, si tous les détails de cette attaque et de ses victimes ne sont pas encore connus, les informations récoltées jusqu'alors laissent pressentir un massacre à grande échelle.
Et quelle a été la réaction à l'échelle internationale ?
Suite à cette attaque, la Cour pénale internationale a déclaré que si ces actes étaient avérés, ils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors tout cela n'est pas nouveau, la CPI enquête depuis 2005 sur des soupçons de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la région du Darfour, bien avant le début du conflit actuel. Du côté de la France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est alarmé de la tournure des événements, évoquant la crainte d'exactions majeures touchant des dizaines de milliers d'innocents. Il a appelé ce lundi les belligérants à cesser le feu. Un porte-parole du ministère a de son côté affirmé, je cite, « La France condamne avec fermeté les atrocités perpétrées par le FSR à Al-Fashir, comprenant des exécutions sommaires, des massacres, des viols, des attaques contre des travailleurs humanitaires, des pillages, des enlèvements et des déplacements forcés. »
La prise de la ville d'Al-Fashir s'inscrit dans le contexte d'une guerre civile sanglante, n'est-ce pas Clara ?
En effet, cela fait maintenant plus de 2 ans, depuis avril 2023, que le pays est plongé dans un conflit ravageur qui a déjà fait des centaines de milliers de morts et de déplacés. La guerre civile oppose 2 camps qui se battent pour le pouvoir, celui du général Al-Burhan à la tête de l'armée régulière et du général Daglo qui dirige le FSR, le groupe paramilitaire responsable de la prise de la ville. En parallèle de ce conflit entre les deux généraux, des tensions ethniques déchirent le pays depuis de longues années et certains pays sont soupçonnés d'être en partie responsables de la pérennisation de la guerre. Les Émirats arabes unis, par exemple, sont fortement soupçonnés d'armer les FSR en équipant de pointe. Les États-Unis ont transmis cette semaine une proposition de cessez-le-feu. Après l'avoir étudié, le ministre de la Défense soudanais, Hassan Kabroun, a affirmé que, je cite, « les préparatifs pour la bataille du peuple soudanais étaient déjà en cours et que la guerre était un droit national légitime ».
Le général Al-Burhan a affirmé sa volonté, je cite, « de se venger de la prise de cette grande ville ». Il semble donc que la situation au Soudan n'évoluera pas vers la paix de sitôt. C'est un tournant politique majeur aux États-Unis. Soran Mamdani a été élu maire de New York, une élection qui provoque un vrai bouleversement outre-Atlantique. Jun Rollin nous en parle.
En effet, André, ce mardi 4 novembre marque l'histoire des États-Unis et notamment de New York, la plus grande ville du pays. Après des mois de campagne et de médiatisation, le démocrate Soran Mamdani a été élu maire avec 50,4% des suffrages, soit un peu plus d'1 million d'électeurs, un scrutin record. Un message d'opposition fort envers Donald Trump, qui avait d'ailleurs invité à voter contre Soran Mamdani, menaçant d'abaisser considérablement sa contribution financière à la ville de New York s'il parvenait à être élu. Revenons maintenant sur ce nouveau visage de la scène politique américaine au parcours atypique et qui pourrait bien bouleverser le paysage politique du pays dans les années à venir. Né en 1991 en Ouganda et élevé en Afrique du Sud, Soran Mamdani est le fils d'une mère cinéaste indo-américaine et d'un père ougandais, professeur de sciences politiques et d'anthropologie au sein de la célèbre Université de Columbia à New York. À l'âge de 7 ans, il fait de nouveau ses bagages et part s'installer à New York avec sa famille. Il obtiendra la nationalité américaine seulement en 2018, 4 ans après avoir obtenu une licence en études afro-américaines. C'est en 2017 que Soran Mamdani fait ses premiers pas en politique à l'occasion des élections pour le conseil municipal de New York, durant lesquelles il soutient Kader El Yatim, un candidat socialiste démocrate. En novembre 2020, il est élu à l'Assemblée de l'État de New York, une élection qui marque un tournant majeur dans sa carrière politique.
Et comment s'est passée sa course à la mairie de New York ?
Soran Mamdani annonce officiellement sa candidature à la mairie de New York en octobre 2024. Dans son programme, le New Yorkais d'adoption propose des mesures fortes, la gratuité des transports en commun, la construction de logements à bas prix ou encore une taxe annuelle de 2% sur les New Yorkais les plus riches. Loin d'être favori, le candidat de 34 ans a dû innover en utilisant notamment les réseaux sociaux. Dans ses vidéos, il part à la rencontre des New Yorkais et notamment de personnes issues, comme lui, de l'immigration. L'immigration est d'ailleurs un des thèmes qu'il aborde très régulièrement, en meeting comme sur les réseaux. Il insiste sur la force que représente cette diversité dans une ville qui s'est construite grâce à elle. En 2020, près de 40% des habitants de la Grande Pomme étaient nés à l'étranger.
Un an après le début de sa campagne, il est élu maire de la ville, une élection qui a suscité des réactions totalement opposées, n'est-ce pas Youn ?
En effet, Andrés, immigrés, musulmans, pro-palestiniens, tout pour plaire à Donald Trump. Non, plus sérieusement, le résultat du scrutin fait vivement grincer des dents le camp présidentiel. Le président américain a récemment réagi en affirmant qu'il attendait de voir comment un communiste allait s'en sortir à New York. Sur les réseaux sociaux, certains soutiens républicains, y compris quelques élus, se sont également déchaînés, tenant des propos à caractère raciste et islamophobe. L'élection de Soran Mamdani a cependant également fait exploser de joie des millions de personnes, et ce, au-delà des frontières nord-américaines. Pour beaucoup de personnes à travers le monde, cette victoire représente une avancée majeure pour les mouvements progressistes, mais aussi pour les droits de personnes immigrées, bien souvent dans le viseur de l'administration Trump.
Et le 111e maire de New York prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 pour un mandat de 4 ans. Entre engouement médiatique et opposition au gouvernement en place, Soran Mamdani va avoir du pain sur la planche. Il est 7h36, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre Matchusalem de Tiff.
Par rapport avec les tripes, je suis un peu non, mais le ciel est gris. Peut-être un peu plus pour un immigré, mais mon dans l'éclipse, c'est la vie qui a fait le tri. que tu veux qu'on aille célébrer? Tellement de démons que j'ai noyé dans le NSC. Pensant que ça pouvait m'en délivrer, mon ego me fait croire que j'ai attiré cette belle fille. Mais elle vient jusqu'à mon délivrer. Ta beauté me parle quand t'es discrète. J'suis pas dans le game, donc elle est prête. Si j'y étais, je les niquerais. Normal, si j'y étais, je les niquerais. J'ai des pulsions bizarres, c'est un mystère. J'ai des pulsions bizarres, c'est un mystère. Que même ton pétard peut pas satisfaire. Que même ton pétard peut pas satisfaire. Une tempête éclaire la pénombre. J't'ai connu le soir d'un couvre-feu. J'me rappelle vraiment pas ton prénom. Si tu passes à pour te foutre le seum. Tu me dis que c'est normal car suis gémeaux. Que j't'ai joué un double jeu. Ton attachement sonne comme un bémol. Je n'ai qu'un cœur et tout le vol. Ça fait mal, tu salames. Ça fait mal, tu salames. Que tu ne m'as pas dit salam. Tu m'as pas dit salam. D'ailleurs, c'est quoi qui t'amène? Ouais, c'est quoi qui t'amène? L'amour m'a qu'il la haine. L'amour m'a qu'il la haine. Cœur dur comme père, cherche du réconfort. Toi, tu m'offres ton corps en guise de récompense. Je sais pas compter ce qu'on perd, je sais pas compter ce qu'on pionce. Mais j'aime la grimace que tu fais quand je sais ma descendance. Je voulais changer d'ambiance, du coup j'ai quitté le texte. Mais j'ai pas la famille, alors je le vis perplexe. Je vais aller voir dans un château qui soit hyper fier. Mais j'étais pas là pour le souhaiter, happy birthday. Deux, trois pour caf qui nous guettent pas les persiennes. En bas y'a du taf, mais ce n'est pas du tertiaire. Tel détail que je règle pas, même si j'excelle. Ton pétard par la langage universel. Hey, une tempête éclaire la pénombre. J't'ai connu le soir d'un couvre-feu. Je me rappelle vraiment pas ton prénom. Si tu passes à pour te foutre le seum. Tu me dis que c'est normal car j'suis gémeaux. Je dois jouer un double jeu. Ton attachement sent comme un bémol. Je n'ai qu'un cœur et tout le vent.
Vous venez d'écouter Mathusalem de Tiff, nous sommes toujours dans l'émission Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Place maintenant à l'interview proposée par Antoine Camara.
À Tours, cet amoureux de basketball transmet sa passion pour ce sport sur les parquets. Il entraîne bénévolement une équipe masculine du Cest Basket Club, engagée en championnat départemental cette saison.
On est au gymnase Anatole France, là où j'entraîne mon équipe de DM3. Mon prénom c'est Philippe, mon nom c'est Franciette. Je vais assumer l'année prochaine mes 50 ans et j'ai commencé le basket, j'avais 6 ans. C'est un sport qui m'a toujours passionné depuis tout petit, grâce à mon grand frère qui m'a initié dès l'âge de 6 ans où on partait faire des petits shoots ensemble. Moi je le regardais jouer sur les côtés et du coup ça m'a fait rentrer dans le jeu, je veux dire inconsciemment, parce que j'y allais pour ne pas trop m'ennuyer à la maison. Et puis finalement, j'ai pris goût. Ça a créé une passion, une envie, un dévouement dans ma vie, quoi.
Comment t'organises une séance type d'entraînement ?
Séance type d'entraînement, il faut connaître ses joueurs. Être capable de,
de mettre des ateliers, des jeux en place qui arrivent à combler les lacunes, les points faibles et surtout amplifier les points forts de tous les joueurs. Ne pas penser, voilà, c'est comme ça, je fais comme ça et puis je reste comme ça. Non, ne pas être buté.
Et qu'est-ce qui t'anime un peu dans ce sport et notamment à travers ce rôle de coach d'une équipe ?
Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le jeu technique, c'est les systèmes. Pour moi, c'est comme les dames, c'est comme l'échec. Le basket, c'est je prends ce pion-là, je remets là, il faut que je trouve la solution pour marquer, il faut que je trouve la solution pour défendre, il faut que je trouve la solution pour tout. Et dans ma tête, ça fonctionne. Ça me plaît d'arriver sur un terrain et de dire, cette équipe-là va nous donner du fil à retordre, il faut que je trouve le moyen.
Et qu'est-ce que tu retires un petit peu de ton expérience personnelle, de ton activité d'entraîneur ? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte dans ta vie de manière générale ?
Ma compagne, elle me dit tout le temps, je suis trop passionné. Je dis, oui, c'est pas de ma faute, mais c'est mon dada, c'est mon petit jeu, c'est ma passion. Et honnêtement, je suis fier parce que j'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai pu transformer des joueurs qui passaient dans des situations assez difficiles et grâce au basket, ils ont réussi à remonter la pente. Ça, c'est mon petit cadeau, ça.
Et pour information, son équipe jouera son prochain match de championnat ce week-end, dimanche 9 novembre à 10h30, au gymnase Anatole France, à Tours. Il est 7h42, tout de suite le flash info de Rachel Giraudeau.
Au lendemain de l'attaque à la voiture Bélier survenue mercredi sur l'île d'Oléron, le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larez, a donné davantage de détails sur le profil du mis en cause. Lors de son interpellation, l'homme de 35 ans a déclaré s'être récemment converti à l'islam, seul à l'aide des réseaux sociaux. Retenant des troubles de la personnalité et parce qu'il n'a pas trouvé de lien avec une organisation djihadiste, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce jeudi au Brésil, à quelques jours de la COP30, qui se tiendra à Belém du 10 au 21 novembre 2025. Il a affirmé que la désinformation climatique faisait peser une menace sur les démocraties, alors que Donald Trump lui-même qualifiait le changement climatique de plus grande arnaque jamais menée. Du foot maintenant, hier soir l'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la première fois de la saison en Ligue Europa. Une défaite 2-0 qui s'ajoute à la semaine compliquée pour les clubs français, marquée aussi par les revers du PSG face au Bayern 2-1 et de l'OM contre Atlanta 1-0.
C'était le Flash Info présenté par Rachel Giraudeau. Place maintenant à un peu de légèreté. Depuis un an, Kalash Nicole, de son nom de scène, est une drag queen tourangelle qui performe dans tout l'ouest de la France. En juin dernier, Clara Baudard est partie à sa rencontre. Entre confiance en soi, avenir et inquiétude, Kalash Nicole a pu se construire avec le drag.
Tout ce que je trouve beau, en fait, j'essaye de l'apporter dans mon drag.
Kalash Nicole monte sur scène pour ses shows depuis un an. Comme beaucoup, elle a commencé avec presque rien. Dans son cas, c'était avec une robe de bonne sœur et une paire de talons. Mais avec le temps, la drag queen a fini par trouver son propre univers.
Mon drag, c'est un petit peu le mélange de tout ce que j'associe à la beauté. Donc tous les différents types de beauté que moi j'aime, je les mets dans mon drag. Donc que ce soit du très glamour de temps en temps, du sexy.
Le drag, Kalash le découvre au collège avec la série télévisée Drag Race. Et plusieurs années plus tard, elle assiste à son premier drag show. C'est le coup de foudre. Par chance, une place se libère pour un show la semaine suivante. Et en 5 jours, elle devient alors Kalash Nicole.
Il m'a beaucoup servi à prendre confiance en moi, même dans la vie de tous les jours. Je suis beaucoup plus à l'aise à prendre la parole et tout. Et puis, ça me permet aussi beaucoup d'exprimer la féminité que j'ai, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, de l'exprimer dans des endroits, à des moments où vraiment je sais que c'est OK, je n'aurai aucune emmerde, parce que je suis quelqu'un qui fait face aussi à de la dysphorie de genre.
Aujourd'hui, Kalash Nicole performe et présente aussi des shows. C'est un moyen pour elle de donner sa chance aux nouveaux venus, comme elle l'a eu à ses débuts. Le drag fait partie intégrante de son quotidien et elle entend bien en faire son avenir.
L'objectif, c'est d'en vivre. J'ai un plan A, c'est le drag. Plan B, c'est le drag. Et jusqu'à Z, c'est que le drag. Et je vais bosser à côté pour financer le drag. Mais après, je sais que c'est beaucoup de boulot, surtout en France où c'est pas aussi démocratisé qu'aux US, par exemple. C'est du travail, mais c'est vraiment la quête que je veux accomplir. Quoi.
La drag queen se dit chanceuse. Elle a des parents qui la soutiennent. Les remarques des autres, elle essaye de ne pas y prêter attention.
Je me préoccupe toujours du regard des gens, mais quand je suis en drag, j'ai l'impression d'avoir une cape d'invisibilité, on va dire. où vraiment je m'en fous. Je vis ma vie, je sais très bien que je suis une bombe. Enfin, regardez-moi, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Mais après, quand c'est hors drag, c'est sûr que c'est plus compliqué de passer à côté de tout ça parce que je me sens moins, entre guillemets, en sécurité. Je ressens moins le super pouvoir que je peux avoir en drag que hors drag. C'est aussi le fait que ce soit un personnage et que du coup, ça m'éloigne un petit peu de la réalité. Et donc, forcément, c'est plus facile d'interagir avec la réalité quand je me sens au-dessus.
Cela, c'est très peu pour Kalash Nicole. Le drag, elle n'a jamais envisagé d'arrêter. Même si, comme tout artiste, elle connaît des bas, c'est sa passion et elle compte bien s'y investir pleinement dans les mois à venir.
La drag queen n'a pour le moment pas de date de show, mais Tourangeau et Tourangelle, restez attentifs, elle reviendra sur scène pour de nouveaux shows en 2026. Il est 7h47, le temps d'une pause musicale. Nous écouterons Aurel San avec son nouveau titre Yoroi.
Nocif, mélancolie chronique, jamais aucune motif, enchaîner les grosses culs, les relations toxiques, comportements hostiles, des rumeurs, des gossips, des angoisses, des phobies, c'est plus trop la folie, ta meuf c'est qu'une copine, conflit dans les gros titres, des droitiers, des gauchistes, des missiles, des sochifs, le monde part en saucisse, tu connais pas la fin mais tu sais déjà qu'elle est trop triste, plus tu grandis, plus tu vois réduire le champ des possibles, l'époque où t'avais encore des rêves et passer trop vite, maintenant tu travailles juste pour construire le rêve d'un autre type, tu peux fuir, tu peux te blinder, tu peux te recouvrir de métal. Quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Tu peux survivre et remonter, tu peux décrocher les étoiles. En vrai, le monde, c'est ce que t'en fais, mais faut travailler. Deviens meilleur. Déjoue les pronostics, change de vue, change d'optique. Calcule pas les autres, t'es solo dans le cockpit. Avancer c'est pas perdre son temps à blâmer les fautifs. Écoute pas leur bullshit, pas tomber des low-kicks. En freeride dans orbite, tant pis prends des gros risques. Tombe, relève-toi et tombe, relève-toi et tombe, relève-toi et tombe, relève-toi, recommence, fais des modifs. Faut devenir alcoolique, faut crouler un autre beat. Trouve un mot la motif, va chercher des autres kits. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Deviens meilleur. C'est ce que t'en fais, le monde 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 c'est ce que t'en fais.
Vous venez d'entendre Yoroi de Aurel San en feat avec l'ancien Daft Punk Thomas Bangalter et vous êtes toujours sur Radio Campus Tour au 99.5 FM et nous entrons déjà dans la dernière partie de notre émission.
Aujourd'hui, on revient sur l'un des événements culturels qui a marqué ces deux dernières semaines, la fermeture du centre Pompidou, marqué par le retour d'une figure bien connue de la scène électronique française.
Samedi 25 octobre, il est 22h, les concerts battent déjà leur plein quand une annonce surprise place l'événement dans une autre dimension. Dans le forum du centre Pompidou, les derniers visiteurs dansent, les noms bleus vibrent, et soudain, un nom circule, un visage qu'on ne s'attendait plus à voir. Aux côtés d'Errol Alkan, de Tatiana Jane et d'un autre invité de taille, Fred Again, qui se produisait d'ailleurs à Lyon la veille, un certain Thomas Bangalter serait attendu. C'est au moment du changement d'heure, à 3h, qu'une silhouette apparaît derrière la platine. Et c'est bien Thomas Bogalter. Oui, le Thomas Bogalter, moitié légendaire des Daft Punk. Une apparition surprise, sans casque, sans robot, mais avec une intensité folle. Devant un Beaubourg plein à craquer pour ce week-end de clôture, l'icône de la French Touch a offert un set construit comme un hommage, à la fois à la musique, à la mémoire du lieu, et à ce qu'il appelle lui-même l'électricité humaine. L'artiste a mêlé ses propres compositions à des archives sonores du Centre Pompidou. On y entendait la voix de Jacques Chirac lors de l'inauguration en 1977, des extraits de journaux télévisés, des bribes de discours sur la modernité, comme si la machine racontait son passé avant de se mettre en veille, au rythme de Contact, titre qui clôture Random Access Memories, le dernier album des Daft Punk, sorti en 2013. Un moment symbolique pour l'artiste, bouclant la boucle depuis leur premier set dans ce même Beaubourg en 1996, avec son duo Guy Manuel de Homem Christo. Mais ce soir-là, le lieu ferme ses portes pour 5 ans. Une fermeture totale pour des travaux de rénovation, pour préserver un bâtiment aussi culte que fragile. Les escalators transparents et les tuyaux colorés, tout ça sera repensé d'ici 2030. Mais avant le silence du chantier, Bogalter a offert un dernier souffle, un pont entre la culture pop et l'histoire institutionnelle. Pour les Inrock, cette performance, c'était plus qu'un concert, une cérémonie de passage. Le producteur, souvent discret depuis la fin du groupe en 2021, venait rendre à Beaubourg ce que Beaubourg lui avait offert, l'idée qu'un musée peut être une boîte de nuit, un laboratoire et un terrain d'expérimentation. Et dans ce décor bientôt vide, il y avait quelque chose de profondément symbolique, l'un des pionniers de la musique électronique française refermant littéralement les portes du temple de la modernité. Très discret depuis la fin des Daft Punk en 2021, les deux anciens robots lancent désormais leurs deux carrières en solo. Bogalter a déjà produit des bandes originales pour Dali de Quentin Dupieux ou pour le ballet Mythologie en 2023, et également pour Orelsan, qu'on vient d'entendre juste avant. De son côté, Guimane de Homem Christo prépare son prochain album dans un style différent, comme l'a récemment annoncé sur France Inter Emmanuel de Burtel, patron du label Because Music, qui chapeautait d'ailleurs la soirée de fermeture de Beaubourg.
Le Centre Pompidou dort désormais, mais sous ses échafaudages, il résonne encore du souffle d'un robot devenu humain, after all.
Cette semaine, les récompenses littéraires ont défilé et le traditionnel prix Goncourt n'a pas fait exception. Le titre a été remis ce mardi au restaurant Chez Drouan. C'est Laurent Mauvignier, un tourangeau, avec son ouvrage La Maison Vide qui a été récompensé par le jury. Clara Baudard.
En effet, André, cette année, le prix Goncourt a un goût de Touraine. Laurent Mauvignier, né à Descartes, une commune de plus de 3000 habitants, à 50 km de Tours, ville dans laquelle il a fait les Beaux-Arts. Artiste qui manie les mots, 8 ans après sa sortie d'école, Laurent Mauvignier publie son premier roman, Loin d'eux, aux éditions de Minuit. Cette maison d'édition, il y reste et il y signe la victoire du Goncourt avec elle mardi dernier.
Dans La Maison Vide, les femmes ont une place centrale dans la narration, elles qui ont longtemps été oubliées par l'histoire avec un grand H.
Tout à fait, ce roman est un retour dans le passé. Laurent Mauvignier nous plonge dans l'histoire d'une saga familiale. Il raconte les vies de ses femmes et de ses hommes sur plus d'un siècle et demi. Il compte leur destin, fragilisé par les guerres, ceux de ces hommes qui partent au combat et qui sont vus en héros, et celles qui restent, mais subissent. La Maison Vide, c'est 3 générations de femmes fauchées par la violence des hommes et de la guerre. L'arrière-arrière-grand-mère, violentée par son époux Firmin, tué à la guerre. L'arrière-grand-mère, Marie Ernestine, contrainte d'épouser Jules et de mettre de côté ses ambitions personnelles. Et la grand-mère, Marguerite, l'effacée des photos de famille, marquée de façon indélébile par la guerre, mais qui pourtant est la seule à avoir aimé. Et au bout de cette chaîne, le père qui a mis fin à ses jours, comme celui de Laurent Mauvignier en 1983.
Quelque part, ce roman pour l'auteur, c'est une affaire personnelle, Clara.
Ici, Laurent Mauvignier se confie sur ses aïeux. Il enquête, comme un archéologue, sur la branche paternelle de l'arbre généalogique, inspiré notamment par les récits de son père, celui qui a vu sa mère se faire tomber à la Libération. Et assez fort, ce livre compte d'autant plus, car Laurent Mauvignier le porte selon lui depuis l'enfance. L'enfance, un thème omniprésent dans son processus d'écriture. Il utilise encore et toujours son bureau d'enfant pour écrire ses plus beaux romans.
Les plus de 700 pages du roman La Maison Vide de Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit ont séduit 6 jurés lors du vote du Goncourt. Pour son 10e roman, l'auteur tourangeau a été notamment récompensé du symbolique chèque de 10 euros. Il est 7h56, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. Mais la culture, c'est aussi près de chez vous, Yon Rollin.
Oui, rebonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, on fait le tour de ce qu'il ne faut pas rater à Tours et aux alentours ce week-end. Et il y en a pour tous les goûts. D'abord, un peu d'art, direction l'hôtel Gouin pour l'exposition d'Alexandra Duprez. Peintre et dessinatrice contemporaine, ses œuvres sont libres, colorées et oniriques. L'artiste nous invite à plonger dans son imaginaire sans filtre entre art brut et poésie visuelle. C'est gratuit et ouvert tout le week-end de 14h à 18h. Pour continuer dans la thématique artistique, vous pourrez aussi profiter d'un atelier familial samedi matin autour de la gravure et du métal repoussé. Rendez-vous à la bibliothèque Viala Stalingrad pour déclinaison gravée. Les parents, les enfants à partir de 6 ans, tout le monde est invité pour un moment qui se veut créatif et convivial. L'après-midi, on change de bibliothèque pour aller à celle de Paul Carlat dans le quartier Sanitas. Sur un ton plus sérieux, l'établissement accueille la conférence de l'usage unique au réemploi. Une rencontre pour repenser nos habitudes de consommation, échanger des idées et repartir avec quelques bonnes résolutions durables. Côté musique maintenant, nous ne pouvions évidemment pas passer à côté du festival de jazz Émergence avec des concerts encore programmés jusqu'à dimanche. À partir de 6€ la place, vous pourrez écouter le groupe Célène, la chanteuse Unazara Liz ou encore le trio de musiciens Jean-Saint-Loubert. Mais le festival, c'est aussi des ateliers, des conférences et des projections de films. N'hésitez pas à jeter un œil au programme complet. Et pour finir en beauté, le Festival des vins de Touraine vous attend à La Riche, au prieuré Saint-Côme. 32 domaines viticoles, des ateliers, un casino des vins et bien sûr des dégustations. L'entrée est gratuite, mais attention, consommez ce bon vin avec modération.
Et voilà de quoi occuper ce week-end des 8 et 9 novembre 2025. Il est 7h58 et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir passé cette heure avec nous. Et merci à celles et ceux qui y ont participé. Rachel Giraudot, Angelina Richard, Inès Figigi, Charline Reiss, Clara Danry, Clara Baudard, Youn Rollin, Antoine Camara, Lise Oshkorn. Et on n'oublie surtout pas Mathis Maudet qui s'est levé très tôt pour s'assurer à la régie technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.